Nous ouvrons le Saint-Livre. Nous aimons ouvrir le Saint-Livre. Vous aimez ouvrir la Sainte Bible à l'Église ou à l'Église et ailleurs? C'est bien. Dans 1 Pierre, au chapitre 3, il y a des conseils qui sont adressés. C'est dans le cadre de la souffrance. C'est une épître qui parle de la souffrance. Les chrétiens traversent des souffrances. Vous le savez? Oui. 1 Pierre chapitre 3, nous prendrons le temps ce matin de faire une dizaine de lectures, certaines très très courtes, et je vous encourage à noter les textes que vous lirez dans le livre des Proverbes, peut-être pour les faire avec vos enfants, vraiment, ou même avec des amis, lorsque vous vous retrouvez, des amis chrétiens. 1 Pierre chapitre 3, verset 1er, encore des conseils qui sont adressés aux épouses, et des conseils qui sont adressés au mari afin que la bénédiction repose sur nos familles. 1 Pierre chapitre 3. Femmes, soyez de même soumises à votre mari, afin que si quelques-uns n'obéissent pas à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme, je ne vous dis pas la puissance du témoignage vécu. En voyant votre manière de vivre chaste et respectueuse, ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. Voilà comment vous devriez, mes sœurs, appeler votre mari. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles, en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec votre femme, comme avec un sexe plus faible, honorez-la, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Je relis cette partie du verset 7. Qu'il en soit ainsi, on pourrait dire autrement, de cette façon, rien ne fera obstacle à vos prières. Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées, des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure. Bénissez, au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie, et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive, car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières, mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Amen. Un peu plus en avant, dans l'épître de Jacques, il nous est également parlé de la portée des paroles, de la bénédiction qui repose sur un homme ou une femme, bien sûr. Regardez ce qui est dit dans Jacques au chapitre 3 et au verset 2. C'est un verset qui va nous aider à comprendre que dans le couple, nous devons absolument veiller sur nos paroles. Jacques chapitre 3 verset 2, nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche pas en parole, c'est un homme parfait. Vous voyez que la perfection existe, capable de tenir tout son corps en bride. Si quelqu'un ne bronche pas en parole. Alors, nous allons continuer à parler du couple dans le cadre des paroles. C'est pour moi très important. Parce que quand on chante « Je voudrais habiter dans ta maison, Seigneur », ça veut dire, ce matin, le don spirituel nous rappelait de veiller sur les cantiques. Vous vous rappelez? Sur ce que nous chantons. Quand on chante « Je voudrais habiter toute ma vie dans ta maison, Seigneur », ça veut dire que ce que je vais entendre, je vais m'y appliquer. C'est évident. La vie spirituelle, je l'ai dit, ce n'est pas que lire sa Bible, aller à l'église, avoir une activité chrétienne. La vie spirituelle, c'est cette capacité qui est donnée à un homme de marcher selon Dieu. C'est ça la vie spirituelle. J'avais expliqué dimanche dernier, je résume un petit peu ma prédication, que la vie spirituelle, on ne peut pas la séparer, c'est-à-dire la vie à l'église. Il y a des chrétiens, d'ailleurs c'est à cela qu'on reconnaît les hypocrites, ou les chrétiens superficiels, ils sont chrétiens à l'église, mais au boulot par exemple, les gens ne savent même pas qu'ils sont chrétiens. Voilà, il y a une duplicité, il y a un mélange. On est chrétien partout. On ne peut pas séparer la vie chrétienne à la maison, la vie au travail, la vie sociale, la vie à l'église. On est chrétien ou on ne l'est pas. Mes frères et sœurs, il faut que ce soit bien clair. La vie spirituelle, c'est cela. Nous avions également abordé ce verset, que le mariage soit honoré de tous, parce que ce que nous voulons, c'est que l'église soit bénie. Vous voulez que l'église soit bénie ? L'église ne peut être bénie que si nous honorons le Seigneur, et nous honorons le Seigneur si nous honorons le mariage. Comment une église peut être bénie si toutes les familles qui la composent n'honorent pas le mariage ? Le mariage, c'est quelque chose de très sérieux. Nous avons vu dans ces deux textes l'importance des paroles. Les paroles, c'est un sujet délicat, les paroles. Les mots, même, moi, je me rends compte, plus j'enseigne, plus je me rends compte qu'un mot peut être utilisé à la place d'un autre. C'est impressionnant le bien que l'on peut faire par des paroles et le mal que l'on peut faire par des paroles. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est un sujet qu'il faut absolument aborder, mes frères et sœurs. Avant d'aborder peut-être la vie intime du couple, parce que c'est un sujet qui me préoccupe, bibliquement. Vous connaissez ce texte, il y a un temps pour se taire et il y a un temps pour parler. Vous êtes d'accord? Il y a un temps pour parler, il y a un temps pour se taire. Là, on voit même que la perfection, selon Dieu, est liée à cette affaire de savoir se taire. Mais en même temps, il faut parler. Il faut exprimer certaines choses. Il y a des choses qu'il faut exprimer. Et il y a des choses que peut-être ce n'est pas la peine de les dire. Et franchement, je prie depuis plusieurs mois pour ce sujet parce que je sais que la bénédiction de l'Église est extrêmement liée à la bénédiction des couples. Vous rappelez ce texte que nous avons utilisé pour introduire ce séminaire, en fait, ce séminaire, ces études sur le couple. Je t'instruis pour ton bien. Tout ce qui est écrit, c'est pour notre bien. Sur la parole, alors on va lire quelques versets dans les proverbes. Mes frères et sœurs, j'aimerais peut-être que vous les notiez. Je ne vous demande pas de noter tes versets pour les noter, mais peut-être que vous les méditiez, peut-être avec votre conjoint. Vous savez, des fois, on tient, qu'est-ce qu'on pourrait lire ensemble? Eh bien, écoutez, on va lire des versets, s'il vous plaît. J'y tiens, j'aimerais que vous les notiez. Quand je vous demande de noter, ce n'est pas pour vous faire travailler. C'est pour que nous ayons un support, parce qu'on oublie les choses. Alors, on va commencer avec le proverbe 13. Regardez ces textes. Le mieux, ce serait que vous preniez le livre vous-même des proverbes, que vous vous arrêtiez chaque fois qu'il y a un enseignement sur les paroles. Proverbe 13, verset 3. On prend le temps de lire ces proverbes, on ne les lit pas d'une manière rapide. On prend le temps. Celui qui veille sur sa bouche garde son âme. J'en profite, je vous le redis, ce sont des textes que vous pouvez utiliser dans le culte avec vos enfants cet été. Celui qui ouvre de grandes lèvres court à sa perte. Proverbe 14, 29. Proverbe 14, 29. Celui qui est lent à la colère a une grande intelligence. Celui qui est prompt à s'emporter proclame sa folie. J'en profite pour vous dire, entre deux versets, est-ce que combien de fois dans votre vie vous avez dit, si j'avais su, je me serais tu? À quelqu'un que vous aimiez, vous avez dit une parole qui n'a pas été comprise. Est-ce que ça vous est arrivé au moins une fois dans votre vie? Et ces proverbes vont nous aider à vivre ces choses, afin de grandir dans la perfection, car même si l'enseignement sur la perfection est presque et n'est jamais enseigné, c'est quand même dans le sermon sur la montagne, il est dit, soyez donc parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. Bien sûr, vous allez me dire, personne n'y arrivera. C'est sûr, mais il n'empêche que ça nous pousse à faire des progrès. Vous avez envie de faire des progrès dans le cadre de votre couple ou de votre futur couple? Oui. Proverbe 15, verset 1. Une réponse douce calme la fureur. mais une parole dure excite la colère. Verset 28. Le cœur du juste médite pour répondre. Vous savez, c'est l'affaire de tourner la langue 7 fois dans la bouche avant de parler. C'est un proverbe, ce n'est pas écrit dans la Bible, ça, hein, mais c'est quand même intelligent. Mais la bouche des méchants répand des méchancetés. Chapitre 16, verset 32. Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros. Celui qui est maître de lui-même que celui qui prend des villes. 17, 27. Celui qui retient ses paroles connaît la science. Et celui qui a l'esprit calme est un homme intelligent. L'insensé même, regardez bien, c'est fort ça, hein, l'insensé même quand il se tait, passe pour sage. Celui qui ferme ses lèvres est un homme intelligent. 19, verset 11. J'ai pris cela, mais j'aurais pu en prendre d'autres pour vous dire que la liste est incomplète. Proverbe 19, verset 11. L'homme qui a de la sagesse est lent à la colère, et il met sa gloire à oublier les offenses, parce que des offenses, il y en a dans le cadre du couple. 20, verset 3. C'est une gloire pour l'homme de s'abstenir des querelles, mais tout insensé se livre à l'emportement. 20, verset 23. L'Éternel a en horreur de sortes de poids, et la balance fausse n'est pas une chose bonne. C'est l'Éternel qui dirige les pas de l'homme, mais l'homme peut-il comprendre sa voix ? Un autre verset, on revient en arrière, 18-21, c'est volontaire, ce qui nous prouve quand même combien on peut faire du bien ou du mal au travers des paroles. Et dans le cadre du couple, on sait très bien ce qui peut blesser l'autre, oui ou non ? Dans un couple, on sait très bien ce qui peut faire mal. Tu ressembles, t'es vraiment comme ta mère. Vous voyez ? Mais ça, je pense que j'invente. 18-21, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Je vous encourage à méditer ces textes en famille, frères et sœurs, et de prier pour que nous puissions faire des progrès dans le domaine de la maîtrise de soi. Car la maîtrise de soi, c'est un fruit de l'esprit. Oui ? Est-ce que la maîtrise de soi est un fruit de l'esprit ? Mais elle n'est pas qu'un fruit de l'esprit, elle est aussi le résultat d'efforts que nous fournissons pour être agréable à Dieu. D'ailleurs, on va le lire, j'y tiens, alors c'est dans 1 Pierre, chapitre, regardez, 2 Pierre, c'est 2 Pierre, chapitre 1er, dans le cadre des promesses que Dieu nous a faites. Il nous demande de faire certaines choses. Regardez bien, c'est très important. Parce que le baptême de l'Esprit, nous allons terminer avec cela, c'est une chose. Mais il y a des efforts qui provoquent la maîtrise de soi. C'est pour ça que j'ai lu ces versets. Deuxième épître de Pierre, chapitre 1er, verset 5. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi, la patience, etc. Donc, mes frères et sœurs, parce qu'on dit ça, oui, mais c'est mon caractère. Non, je ne suis pas d'accord. Je crois que Dieu nous a donné sa parole, et comme nous l'avons entendu, les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. C'est nous qui sommes pénibles. Les commandements de Dieu ne sont pas pénibles, ce n'est pas vrai. Les commandements du Seigneur sont tous intelligents. Et quand Dieu nous dit « faites tous vos efforts pour joindre à votre foi à la piété la maîtrise de soi, etc. » Donc, je fais des efforts. Comment ? Eh bien, tiens, ces versets que nous avons partagés ce matin, on va, avec mon épouse, les partager et voir ce qui peut nous blesser dans le cadre du couple, parce que c'est bien joli de parler de l'intimité dans le couple, mais si ça ne commence pas par ce qui est le plus important, par le dialogue, car quand même, c'est quoi le plus important ? C'est la communion ou la communication avec Dieu. Eh bien, s'il y a bien quelque chose d'important dans la vie, c'est la communion ou la communication avec celui qui est notre conjoint, croyez-moi. La maîtrise de soi se développe par les efforts que nous faisons par rapport à l'enseignement de la parole de Dieu. D'ailleurs, vous connaissez ce texte, je vous le cite, Jacques 1, 19, « Que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. » Bon, est-ce que ça vous arrive de vous mettre en colère contre votre conjoint parce qu'il est, il est désordre? Ça arrive ? Madame Delon, vous avez quelque chose à dire à votre mari ? Non. Mais est-ce que ça arrive des fois ? Est-ce que ça arrive ? Est-ce qu'un mari peut être un peu désordre ? Est-ce qu'une femme peut être en retard ? Etc. Non, mais on va voir certaines... Non, mais ça suffit ? Ça suffit à mettre quelqu'un en colère ? Ça suffit. Notre société est en pleine dégénérescence. Je ne pense pas vous apprendre quelque chose. Nous sommes dans une situation extrêmement grave, les temps sont difficiles, l'apostasie est dans l'Église, l'iniquité est dans l'Église, l'iniquité est dans le monde, on ne se rend même pas compte à quel point, mais pourtant, nous sommes chrétiens, nous avons choisi d'être chrétiens, quand nous avons chanté ce matin « Je désire être dans ta maison Seigneur », c'est pour entendre ce que Dieu a à me dire, pour me perfectionner et être cette source de bénédiction pour la gloire de Dieu et pour les chrétiens que Dieu a mis à côté de moi. C'est quand même une question... Je ne sais pas s'il faut la poser, mais je ne sais pas si on aurait l'honnêteté peut-être d'entendre la réponse. Est-ce que je suis une bénédiction pour vous ? Est-ce que vous pouvez poser cette question aux gens que vous côtoyez ? Est-ce que je suis une bénédiction pour toi ou un fardeau ? Est-ce que vous pouvez poser la question à celui avec qui vous côtoyez le plus ? Il faut le faire de manière constructive. Si c'est pour faire de la morale, ce n'est pas la peine. Nous sommes dans un monde difficile, mais dans l'Église, même si c'est difficile, nous pouvons faire ce que Dieu nous demande, parce que Dieu sera toujours là pour nous aider. L'homme doit être un homme, et on voit bien qu'aujourd'hui, les hommes ne veulent plus être des hommes. C'est un truc de fou, ça. Je ne vous apprends rien. Les femmes ne veulent plus être des femmes, et chacun, nous devrions assumer le rôle que Dieu nous a donné. Si Dieu vous a fait homme, vous devez être un homme. Oui, je veux dire, la palisse... si vous êtes une femme, ben vous devez être une femme. Je ne pense pas qu'il y a besoin de beaucoup d'intelligence pour comprendre ça. Alors, il faut utiliser les textes bibliques d'une façon intelligente. Vous savez, moi, je vous l'ai dit dernièrement, la première, je n'étais pas pasteur, bien sûr, le premier enseignement que j'ai attendu sur le couple était vraiment léger et était très amusant. Et je ne pense pas que c'est comme ça qu'on avance dans l'Église. Les textes doivent être utilisés d'une manière sérieuse. On est là, sous le regard du Seigneur, on a besoin de devenir un meilleur père, un meilleur frère, un meilleur mari, etc. Et une meilleure femme, une meilleure épouse, une meilleure, comment dirais-je, une femme, etc. On peut utiliser les textes bibliques de plusieurs façons, vous le savez. On peut utiliser, vous savez, on appelle ça aujourd'hui dans la théologie moderne la lecture plurielle, c'est-à-dire qu'un texte, on lui fait dire ce qu'on veut. Mais je crois qu'on ne fait pas dire ce qu'on veut à la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la parole de Dieu, ça ne peut pas être plus clair. On peut intégrer des textes d'une manière laxiste, libéraliste, moraliste, intégriste. C'est quoi l'intégrisme ? On parle souvent des intégristes dans certains milieux, oui ou non ? Bon, vous savez à quoi ça correspond. Que nous intégrions la foi biblique dans notre vie, c'est quelque chose d'excellent, bien sûr. Mais nous n'avons pas le droit d'imposer nos convictions aux autres, et surtout à ceux qui ne sont pas convertis. Des gens découvrent l'Évangile, moi je l'ai déjà vu ça, mais combien de fois, des gens qui découvraient l'Évangile, ils n'étaient même pas encore nés de nouveau, ils n'étaient même pas convaincus de péché, on leur demandait de faire certaines choses qu'ils ne pouvaient pas faire tant qu'ils n'étaient pas nés de nouveau. Et je peux vous dire qu'on n'a pas aidé des gens, ça s'appelle de l'avortement spirituel, ça. C'est grave. Et le piège de l'intégrisme peut nous atteindre à nous aussi. Nous obligeons certaines personnes à faire certaines choses dont elles ne sont pas convaincues. Et je peux vous dire qu'on a fait beaucoup de mal. Je crois que quand quelqu'un est convaincu de péché, il fait les choses par conviction et il les fait parce que vraiment le Saint-Esprit le pousse à le faire. Des églises sont devenues intégristes. Il n'y a pas que certaines religions orientales qui enseignent l'intégrisme. Il y a des religions chrétiennes qui sont intégristes aussi. Et nous devons veiller à nous chrétiens de ne pas imposer certaines choses dans le cadre de nos familles. D'un autre côté, il y a le piège du libéralisme, on fait ce qu'on veut, aujourd'hui tout va bien, Dieu est bon, Dieu est amour, c'est la grâce, c'est la liberté, etc., etc. Faites ce que vous voulez, et tout ça, bien sûr, ça contribue à l'échec. Nous devons être des chrétiens équilibrés. D'ailleurs, c'est une question que je pose de temps en temps, est-ce que vous priez pour être un chrétien équilibré? Est-ce que c'est important pour vous de dire, Seigneur, fais de moi un chrétien équilibré? Ou est-ce que ça vous est égal? Moi, je pense qu'on devrait prier dans ce sens. Un chrétien qui rend un bon témoignage. Qu'est-ce qu'ils ont besoin, les gens de l'extérieur? Que vous leur disiez, moi, je ne suis pas catholique, moi, je ne suis pas protestant, moi, je suis un chrétien de Pentecôte. C'est ça qu'ils ont besoin, les gens, d'entendre? Moi, je pense que les gens, ils ont besoin de voir des hommes et des femmes qui, par la grâce de Dieu, donc par la foi, sont devenus équilibrés, solides, paisibles, stables. Je crois qu'un chrétien, il a besoin de rendre ce témoignage. Oui ou non? Heureux ceux qui procurent la paix. L'évangile, ce n'est pas un lavage de cerveau. Dieu nous a lavé le cœur. Ça, c'est vrai, que le nom du Seigneur soit béni. Mais Dieu nous a donné aussi une âme et un cerveau et la capacité de réfléchir. Ce matin, je lisais le prophète Osée et c'est incroyable comment il est dit, mais celui qui est intelligent comprendra les choses. Donc, il y a bien la possibilité de devenir intelligent. Est-ce que Dieu nous rend intelligent? Oui. Est-ce que Dieu peut nous rendre sages? Oui. Tout cela, ça se développe par la connaissance de la parole de Dieu. Dieu nous a donné sa parole. Il est certain que si nous ne méditons pas sa parole, il y a quelques mois de cela en arrière, il y a un monsieur qui est venu quelquefois et qui m'a contredit par rapport à ce que j'avais prêché. Il m'a dit non, Dieu ne peut pas être comme ça, monsieur Gros, ce n'est pas possible. Et je peux vous dire que cet homme ne lit pas la Bible, c'est sûr. C'est sûr que cet homme ne lisait pas la Bible. Et combien de chrétiens se font piéger en ne lisant pas la parole de Dieu? Et si Dieu nous donne un conjoint, si Dieu nous donne des enfants, nous devons savoir quels sont les conseils qui feront que je pourrai aimer la vie. Si quelqu'un veut aimer la vie et voir des jours heureux, et bien voilà, il faut préserver sa langue du mal. Et qu'est-ce que je dois faire? Dans quel domaine j'ai des défaillances? Je peux être bon dans un domaine, très bon dans un autre, mais je peux être fragile dans un autre. Soyons honnêtes, soyons vraiment honnêtes. Dans quel domaine j'ai besoin de mettre de l'huile pour que le Saint-Esprit me donne cette faveur d'être un bon mari? À quoi ça sert d'être un bon prédicateur si je suis un mauvais mari? Celui qui n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, qu'est-ce qu'il dit la suite? Il a renié la foi, la suite est pire, il est pire qu'un infidèle. Donc, vous voyez, je peux être capable dans un domaine et je dois voir, là, on est devant Dieu. On vient de lire des textes qui nous permettent de faire le point. Tiens, bon, qu'est-ce que Dieu dit aux hommes? Qu'est-ce que Dieu demande aux hommes? Lui qui nous a créés, il sait très bien dans quel besoin nous sommes. Ah, mais moi, je vais voir, on va voir depuis... Mon enfant, c'est un voleur. Écoutez bien, je l'ai entendu, ça. Mon enfant, il vole... Et on a décidé d'aller voir un psy pour comprendre. Alors, comment ça s'est passé? Ah ben, le psy nous a dit que ce n'était pas un voleur. Attendez, c'est de la kleptomanie. C'est une maladie. Donc, ce n'est pas un voleur. Bon, moi, je crois que Dieu appelle un chat un chat. Vous voyez où on en arrive, hein? Non, ce n'est pas un menteur. Non, c'est pas menteur. Notre fils ne ment pas. C'est un mythomane. C'est une maladie. Vous riez? Vous riez. Mais c'est pas comme ça que ça doit marcher. Dieu parle aux hommes, Marie, aimez vos femmes. Alors quand on voit ce que Dieu demande aux hommes, je pense que c'est pas le moment de rigoler. Parce que quand même, on veut la gloire de Dieu dans l'Église. C'est lié à la gloire de Dieu, tout ça. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Il ne demande pas ça aux femmes. Pourquoi? Mais il y a une raison. Quel est, alors les femmes doucement, quel est le défaut majeur des hommes? Je vois qu'il y a beaucoup de sourires, mais peut-être qu'un, s'il vous plaît, soyez gentils. Quel est le défaut majeur des hommes? Comment? Râleur. Bon, on ne va pas commencer. On n'a pas 2 heures de temps. Je pense que l'homme, de par sa nature, a du mal à voir les besoins de sa femme. On va faire les choses correctement. sérieusement pour avancer. Bien sûr que l'homme peut être râleur, mais je pense que les femmes suivent de près. Je m'excuse, madame qui l'avait, mais bon. Je pense que c'est plus grave que ça. L'homme a du mal à voir certaines choses. Écoutez bien, mes sœurs. Je ne dis pas ça parce que je suis un homme. Je dis ça parce que c'est le meilleur moyen de faire des progrès. La femme, elle, par exemple, ne dit pas tout. Elle aurait besoin que ses besoins soient devinés. Je l'ai entendu, ça. Tu pourrais deviner que j'ai besoin de ça. Alors moi, je crois qu'il y a des besoins. Et c'est pour ça que j'ai parlé des paroles en introduction, même si l'introduction est longue, le développement sera plus court, bien sûr. Mais il y a des besoins qu'on doit exprimer, mes frères et sœurs. Il y a des choses qu'on doit dire, il y a des besoins qu'on n'exprime pas. Ça va dans tous les domaines de la vie, ça va même dans le domaine sentimental, physique. Si vous êtes dans les proverbes, regardez dans un peu plus loin. On aborde le côté sentimental, mais c'est pour vous dire qu'il y a besoin d'exprimer le côté physique de l'affection. Regardez dans le Cantique des Cantiques. Dans le Cantique des Cantiques, on viendra là-dessus. Mais c'est pour vous dire que ça va dans tous les domaines. Les besoins, ils sont psychiques, ils sont spirituels, ils sont matériels, ils sont sexuels. Il y a plein de besoins. Ils y sont. Il faut en parler comme la Bible en parle. Ne venez pas me dire que j'ai débordé. Cantique des Cantiques, chapitre 1er, verset 2. Vous voyez, c'est une femme qui parle. C'est la femme qui parle. Et elle ne le dit pas qu'une fois. C'est un livre, on a dit oui, c'est un livre qui ne parle que de Christ et de l'Église. Bon, mais enfin quand même, je veux dire, il y a des choses, je veux bien spiritualiser moi tant que vous voudrez. Mais quand il est écrit qu'il me baise des baisers de sa bouche, bon, moi je veux bien spiritualiser. Mais ça veut quand même dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que c'est une femme qui exprime ses besoins à son mari. Mais bien sûr, c'est réciproque, c'est-à-dire qu'un homme peut exprimer ses besoins physiques, affectifs, sexuels à sa femme. La Bible en parle. C'est vrai que c'est délicat d'en parler. Moi, je me dois d'en parler parce que je pense qu'il faut que nous comprenions tous bien une chose. C'est que les hommes, Dieu les a créés avec leur identité, leur caractère, leur personnalité. Les femmes, Dieu les a créées avec leur caractère, leur personnalité, leur identité, etc. Nous sommes complémentaires. Nous sommes vraiment complémentaires. Nous sommes égaux et différents. Et il y a des besoins que l'on doit exprimer. Il faut les dire. Parce qu'une femme a besoin de dire certaines choses, un mari a besoin de dire certaines choses. Et il faut écouter lorsque c'est des besoins, quand c'est des désirs matériels. Chérie, achète-moi une Lamborghini. Bon, si elle commence à trépigner, je veux une Lamborghini. Bon, expliquez-lui quand même, expliquez-lui. Mais ça, ce n'est pas des besoins. Je plaisante, bien sûr. Mais il y a des désirs qu'il faut de suite zapper. Mais il y a des besoins. Est-ce que, bien sûr, vous allez me dire, mais il faut faire reconnaître ses besoins à Dieu, monsieur Gault, ça suffit. Ben, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. Moi, je crois que si Dieu nous a donné une aide, un mari, une femme, c'est pour que l'on puisse avoir de l'intelligence, de la sagesse. Je ne prends pas le temps de développer ces deux mots, mais qui font qu'on devrait pouvoir dire certains besoins. J'ai besoin de ça. Chérie, j'ai besoin de ça. Je t'en parle. Voilà, il faut en parler d'une manière profonde. Vous vous rendez compte, il y a des coups, moi je le sais. Écoutez, ça fait 38, 36 ans que je suis pasteur. Je suis archi-peiné quand je vois des couples qui ont 20 ans. Et pourquoi tu ne me l'as pas dit? Moi, je ne te dis rien. J'ai pas confiance en toi. Et là aussi, c'est un autre domaine. 20 ans que vous êtes ensemble, vous n'avez pas confiance en votre femme? Non, moi je ne dis rien à ma femme. Elle m'énerve. Ne riez pas. Hein. Qu'au début, bien sûr que la confiance, ça se gagne. Il faut du temps pour avoir confiance à quelqu'un. Quand quelqu'un me dit à moi, monsieur Gault, faites-moi confiance, je dis, mais je ne vous connais pas. Tu ne peux pas faire confiance à quelqu'un. Faites-moi confiance. Non, j'ai dit non, je vous ferai confiance quand je vous connaîtrai. On ne peut pas faire. Mais une femme, on ne peut pas lui faire confiance. Enfin, quand on entre dans la fréquentation, c'est pour ça qu'il faut que les jeunes se fréquentent et qu'ils passent du temps ensemble. Franchement, quand deux jeunes se fréquentent, laissez-les passer du temps ensemble, tout le temps de leur fréquentation, afin qu'ils apprennent à se connaître. Et si ça ne marche pas, ce n'est pas grave. Mais la pression, moi j'ai entendu un homme, un pasteur, qui a dit à une jeune fille, ça fait 2 mois que vous êtes ensemble dans l'église, on vous voit souvent ensemble. Il faudrait que vous régularisiez, que vous vous mariez. Ils se sont mariés. La pression de l'église, vous voyez. C'est ridicule. Si ces deux jeunes ont besoin d'un an ou deux pour se fréquenter, eh bien qu'ils prennent le temps. On n'est pas là pour soupçonner le mal, parce que deux jeunes se fréquentent. Au contraire, on doit prier pour eux. Le besoin des hommes, le problème des hommes, le problème des femmes, on va y venir. La femme ne dit pas tout. Des fois, nous nous exprimons mal. Mais quand même, mes frères et sœurs, c'est quoi les besoins les plus importants? Ce qu'on exprime ou ce qu'on n'exprime pas? Je ne suis pas psychologue, mais c'est simple quand même. C'est biblique, ce que je vous dis. C'est quoi, mes sœurs, réfléchissez à haute voix. Pas à haute voix, surtout pas. C'est quoi vos besoins, les besoins les plus importants? Vous les exprimez à votre mari ou aux messieurs, à votre femme, vous ne les exprimez pas? Parce que la vie, c'est, bon, il y a l'église, on est là, on est dans la paix, on est heureux, on partage sa parole, après le pain et le vin, on va partager la communion fraternelle, c'est un grand, grand bienfait, etc. Mais bien, après, on va se retrouver à la maison. On va être à la maison, demain on va travailler, il va faire peut-être très chaud, je vais rentrer du travail, je vais être fatigué, j'ai besoin de souffler, j'ai besoin de me taire, j'ai parlé toute la journée avec les conseillers, avec les collègues, etc. Et je rentre à la maison, raconte-moi ta journée. Et ça vous est jamais arrivé, ça? Messieurs, ça vous est jamais arrivé? J'aimerais que tu me racontes ta journée. Je n'ai pas trop envie de parler. Ah, mais ça ne m'étonne pas. Hein, tu as bien changé depuis qu'on se fréquentait. Voilà, mais Dieu dit, là, l'Esprit de Dieu qui nous rappelle sa parole, Dieu dit, Marie, aimez vos femmes. Le Christ, le Seigneur Jésus, notre Père, aime l'Église. Il aime l'Église et il en prend soin. Est-ce que Dieu prend soin de vous? Si vous le laissez prendre soin de vous, vous savez que c'est vrai. L'Église n'est pas pour le Seigneur Jésus un objet qu'il utilise. L'Église, il en prend soin. Dieu nous aime. Dieu aime le corps de Christ. Nous, souvent, comme la prophétie le disait, nous nous sentons tout petits et nous pensons que Dieu s'occupe que des grands. Dieu s'occupe des petits. Dieu aime les petits. Même si vous vous sentez petit, Dieu vous aime. Vous n'êtes pas son objet. Vous faites partie de son épouse. Dieu, il en prend soin. Il la nourrit, l'Église. C'est vrai que Dieu met une grosse pression aux hommes. Et mes frères, je vous demande de demander de l'aide, qu'on demande au Seigneur de l'aide. Seigneur, donne-moi d'être ce mari, d'écouter ma femme. Elle a besoin de m'écouter, elle répète toujours pareil, mais peut-être que si je l'écoutais, elle arrêterait de redire les mêmes choses puisqu'elle se sentirait comprise. Ma femme est radote, elle redit toujours les mêmes choses. Je ne pense pas que c'est comme ça qu'il faut parler. C'est vrai que l'homme a tendance à être égoïste aussi. Oui ou non? Est-ce qu'on peut être égoïste dans un couple? Est-ce qu'il peut y avoir de l'égoïsme? Moi, je m'occupe de moi. Écoute, fais ton train-train. Écoute, chacun sa vie. Non, je crois que ce n'est pas comme ça. C'est vrai que l'homme a des défauts. Il a des défauts. Pourquoi il dit au père? Père, n'irritez pas vos enfants. Il ne le dit pas aux femmes. Ça ne veut pas dire que les femmes n'irritent pas leurs enfants. Mais l'homme a plus tendance à irriter les enfants qu'une mère. Pourquoi? Eh bien parce que l'homme ne comprend pas la sensibilité des enfants, il n'a pas la sensibilité de la femme, donc il peut donner des ordres injustes. Moi, combien de fois j'ai dû demander pardon à mes enfants? Parce que on les envoie balader des fois. Oui ou non? Et tout ça, il faut savoir demander pardon. On peut irriter les enfants par des paroles inintelligentes, des paroles désordres, des paroles dures. Soyez lents à parler. Mes frères, nous voulons une belle église. Vous voulez une belle église? Je ne parle pas du local qu'on va acquérir. Je parle d'une église d'hommes et de femmes qui glorifie le Seigneur. Que nos enfants soient fiers de leurs parents. Je ne sais pas si vous pouvez dire, moi je suis fier de mon père. Il n'est pas parfait, il a ses défauts, mais je suis fier de lui. Je suis fier de ma maman. Je suis fier de ma maman. C'est beau quand des enfants parlent comme ça. Que le mariage soit honoré de tous. Vous savez, mes frères et sœurs, nous, on est là dans le méga spirituel, on veut des prédications super spirituelles. Mais moi, je crois vraiment qu'on devrait dire, mais comment je dois être? Je suis un homme, je suis un père, je suis un mari, je suis un frère. Qu'est-ce que Dieu dit aux hommes, aux frères, aux maris, aux pères? Qu'est-ce que Dieu dit aux femmes? On revient dans 1 Pierre. Dans 1 Pierre, il y a des choses que Dieu dit aux femmes. Alors, c'est le problème de l'homme, c'est vrai, c'est peut-être l'égoïsme, l'insensibilité. Le problème des femmes, des fois, c'est qu'elles sont peut-être, trop sensibles. Non, on ne peut pas être trop sensible. Elles sont susceptibles, les femmes, des fois. Oui ou non? Femmes, soyez de même soumises à votre mari. Quel est le problème de la femme? C'est quoi la soumission? Commençons à parler de soumission. C'est quoi la soumission? Est-ce qu'il est dit, femmes, soyez les esclaves de votre mari? Mes frères, j'ai entendu des hommes parler à leurs femmes d'une façon tellement dure en utilisant ce verset. Ce verset, vous allez voir, mes frères, que ce n'est pas ce que les hommes enseignent. La femme a sa personnalité, la femme a son identité, ses capacités. Dans certains points, elle est meilleure que l'homme. Elle a des compétences que l'homme n'a pas. Oui ou non? Oh, mais attendez, M. Gouy, il a quand même dit, on l'a lu, considérez-la comme un sexe plus faible. Hein? Vous êtes sûr qu'on est égaux? Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Est-ce que l'apôtre Pierre s'est trompé? Moi, je pense que ce n'est pas au niveau spirituel, ce n'est pas au niveau intellectuel, ce n'est pas au niveau psychologique, c'est au niveau physique. Je suis sûr que c'est ça. C'est sûr que physiquement, la femme est moins forte que l'homme. Quoiqu'aujourd'hui, il y a des femmes qui font du bodybuilding. Je ne vous dis pas comment elles sont gracieuses et féminines. Il y a des femmes qui sont fortes physiquement. Mais quand Dieu demande aux hommes de considérer leurs épouses comme étant plus faibles dans le domaine physique, ça nous indique que nous aussi, nous devons protéger nos épouses. Ça devrait être une bénédiction de protéger nos épouses. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne fasse obstacle à nos prières. Vous savez, quand on méprise sa femme, quand on méprise son mari, que les enfants grandissent en voyant ce cinéma, c'est pas comme ça que l'œuvre de Dieu va prospérer. Parce que, je le dis simplement, ce que je veux dire, c'est simple, mais c'est beau. Si dans une église, même si nous n'évangélisions pas comme nous devrions le faire, mais si déjà, dans nos propres foyers, tous nos enfants, nos adolescents, nos jeunes, étaient bénis par le témoignage de l'Église, vous ne croyez pas déjà que ça serait un drôle de travail d'évangélisation? Mes frères et sœurs, nous sommes égaux. Dieu a dit, quand il a créé Adam et Ève, quand il a dit à Adam, je lui ferai une aide semblable à lui. Nous sommes égaux. La rivalité, c'est le péché qui l'a introduit. La compétition dans le couple, c'est le diable qui a introduit ça. Nous n'avons pas à nous comparer, déjà, à qui que ce soit. Dans un couple, il n'y a pas de compétition. Tu gagnes combien, toi? Mais moi, je gagne 500 euros de plus que toi. Mais c'est ça, le couple? T'as mieux? Moi, j'aimerais bien que ma femme gagne 10 000 euros de plus que moi. Soyons sérieux, mes frères et sœurs. Paul n'a pas dit, Marie, soumettez vos femmes. Ce n'est pas ça qu'il a dit. Pierre en parle en plus comme des vases plus faibles. Mais justement, le vase, ce n'est pas l'intérieur. C'est justement l'extérieur. C'est bien la preuve que c'est physique. La soumission, c'est aider. Écoutez-moi, mes sœurs. Nous avons besoin de vous. Chaque mari a besoin de sa femme. Et une femme doit être une aide. Je peux m'autoriser à être un peu sévère par rapport à votre attitude. Vous devez aider votre mari. Bien sûr que vous avez le droit, de temps à autre, de lui faire un reproche, mais il ne faut pas qu'il y ait que des reproches. Je sais comment ça marche. Ça fait 38 ans que je suis marié. Je sais. Et je sais que nous avons besoin de reproches. Mais si nous ne sommes que continuellement soumis à des reproches, ça ne va pas construire. Il faut savoir faire un reproche. Il faut savoir encourager son mari. Je lui ferai une aide. La soumission, c'est le devoir d'aider. Je dois aider mon mari. Il n'est pas parfait, mais ça, vous le saviez, avant de vous marier. Si vous cherchez la perfection, vous allez avoir du mal à trouver le gars. Vous ne risquez pas de vous marier, de toute façon. Tous les hommes parfaits, ils sont pris. Mais mes frères et sœurs, ben, je plaisante. Mais est-ce qu'on a le droit de faire un peu d'humour? Ouais. La soumission, c'est d'aider. Je veux aider mon mari. Est-ce que vous pouvez dire à votre mari, mais d'une manière intelligente et constructive, si c'est de la morale, c'est pas la peine. Mais d'une manière, on veut glorifier le nom du Seigneur. Est-ce que je t'aide? Est-ce que tu trouves que je t'aide? Ou que je ne t'aide pas? Parlez-en, d'une manière intelligente, pas d'une manière moraliste de grâce. Alors Dieu demande des choses aux hommes, Dieu demande des choses aux femmes. Qu'est-ce que c'est le plus difficile? À qui Dieu a-t-il confié le rôle le plus difficile, en fait? Tiens donc, c'est quoi le plus difficile, d'être le chef de famille ou d'être l'aide au chef de famille? Ça, c'est une vraie question. Qu'est-ce que c'est le plus facile, de diriger ou d'aider celui qui dirige? Moi, je me suis posé la question et je me la pose encore. Je me demande qu'est-ce que c'est le plus difficile, si c'est de diriger son foyer ou d'aider celui qui dirige. J'en suis arrivé à penser que le plus difficile, c'est d'aider. Parce que diriger, c'est facile, de donner des ordres, de donner des directives, mais c'est autre chose. Bon, après, il faut que la personne accepte d'être aidée aussi. Si votre mari n'accepte pas d'être aidé, il faut se mettre à genoux là et demander pardon. Mais d'une manière normale, les chrétiens sont des gens normaux qui devraient se dire, voilà, bon, je veux faire ce que Dieu me demande. Est-ce que c'est important pour vous? Vous priez de temps en temps, Seigneur, je veux faire ta volonté, je veux faire ta volonté, Seigneur, je t'assure. Vous le faites, ça? Avec des fois, avec tristesse, parce que vous voyez bien qu'il y a un décalage. Est-ce que ça vous arrive des fois de souffrir, Seigneur, je te supplie, je veux faire ta volonté? Eh bien, voilà. Est-ce que je suis la femme que je dois être? Est-ce que j'aide mon mari? On peut, vous savez, on a tout l'été là pour travailler cette affaire et dire, mais les maris, soyez respectueux, parce que dans le couple, on doit se respecter. On respecte les gens qu'on ne connaît pas, des fois, c'est vrai ou c'est pas vrai? Des fois, on a vachement de respect pour les gens qu'on ne connaît pas. Et on ne pourrait pas avoir un peu de respect pour les gens qui sont là dans la maison? Je veux respecter mon épouse, je veux respecter mon mari. Oui, c'est difficile d'aimer, d'aider. C'est difficile d'aider, surtout si quelqu'un ne veut pas être aidé. C'est sûr que si vous avez un mari qui ne coûte rien, ça va être impossible, ça c'est sûr. Vous connaissez le Proverbe 31? On pourrait le lire, on ne peut pas lire en entier, mais c'est un psaume, c'est un proverbe, là aussi on est dans le domaine de la perfection, je pense. Mais quand même, il y a des paroles qui sont dites par rapport aux femmes vertueuses. Vous aimeriez, quand vous passerez devant le maître, entendre « Ma fille, tu as été une femme vertueuse ». Mes sœurs, vous aimeriez? Je pense que oui. Alors ça commence par une question, c'est Proverbe 31, verset 10. Ça termine par peut-être que la sagesse, vous voyez, bon, moi je crois dans la logique biblique. Il y a 30 chapitres sur la sagesse et il y a un dernier chapitre sur la perfection dans le cadre de la famille. Je crois que le livre des Proverbes donne de la sagesse. Proverbe 31, verset 10, qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle. Vous voyez, c'est beau quand même dans un couple. On le travaille, ça se travaille ça. Mes frères et sœurs, ça serait beau si tous les couples travaillaient cette affaire. Le cœur de son mari a confiance en elle. Et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien. Et non du mal tous les jours de sa vie. C'est ce que Dieu veut. Alors bien sûr qu'on a tous nos jours difficiles, on peut des fois être désagréable, mais n'en prenons pas ombrage. Proverbe 31, verset 25, elle est revêtue de force et de gloire, elle se rit de l'avenir. Pourquoi j'ai pris ce verset? Parce qu'on en déduit que cette femme est pleine d'espérance, qu'elle a une communion avec Dieu. J'ai pris ce verset avec l'autre, pourquoi? Parce que si elle se rit de l'avenir, cette femme, c'est qu'elle n'a pas peur du lendemain, c'est qu'elle a vraiment de la communion avec Dieu. Et une femme qui n'a pas peur du lendemain, c'est sûr, c'est une femme qui connaît Dieu. Parce qu'elle a confiance en Dieu. Son mari a confiance en elle, mais elle, elle a confiance en Dieu. Et je crois que tout ça, ça se travaille, la confiance, ça se gagne. J'espère que vous avez confiance en votre femme, que vous avez confiance en votre mari, que nous prenons soin l'un de l'autre, que nous nous écoutons, que nous ne nous rabrouons pas parce que nous avons été peut-être un peu désordre, parce qu'on a été un peu en retard. Aider, c'est tiens, quelle est la meilleure idée que je puisse suggérer à mon mari ? Quelle est la meilleure idée que je puisse donner à ma femme ? Là aussi, on doit peut-être se mettre à genoux, tous les deux. Est-ce que vous priez ensemble ? Souvent, je dis au couple, mais vous priez ensemble ? Non, on ne prie jamais ensemble. Vous ne croyez pas que c'est... Qu'est-ce que ça coûte de prier 5 minutes ensemble ? Là, quand on prend le café ou le soir avant de s'endormir, on peut prier ensemble pour nos enfants, pour notre maison, pour que Dieu nous protège. Parce qu'il y a des choses que vous ne pourrez pas faire. C'est Dieu qui les fera. Être soumis. Vous rappelez comment Jézabel, elle a aidé son mari ? Vous rappelez ? Il y a des femmes qui sont des malédictions pour leur mari. Et vice-versa, bien sûr. La soumission, c'est être, ça veut dire soumis. Soumis, ça veut dire mis sous. C'est exactement l'image d'un échafaudage qui aide à construire un mur. La femme, elle est à côté de son mari. Et ils construisent ensemble. Elle est sous lui. Elle travaille. Vous savez, quand on dit supporter, on utilise ce mot d'une manière négative. Il faut supporter mes enfants. Mais en vérité, supporter, ça veut dire porter avec. Et soumis, c'est pareil. Je suis sous mon mari. Je suis à côté de lui. Et je l'aide. Et ensemble, on travaillera à nos enfants. Parce que les enfants, ce n'est pas toujours facile. Non ? Est-ce que c'est facile d'élever des enfants quand ils sont adolescents, par exemple ? Et les enfants, vous devriez faire aussi des efforts et accepter que vos parents puissent être fatigués. Même s'ils n'ont pas toujours été au top. Alors, je termine avec cette pensée quand même, dans Éphésiens 5, parce que quand même, je pense qu'elle complète bien l'exhortation, quand il est dit dans le cadre de la vie de l'Esprit, « Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Christ. » Mes frères et sœurs, nous aborderons, je sais que l'intimité du couple, ça travaille certains, on va prendre les textes, vous allez voir, ce n'est pas compliqué. Mais c'est préparé par tout ce qu'on fait là. Soumettez-vous, on va le lire, pour ceux qui ne lisent pas la Bible. Je suis triste de devoir dire ça, mais si vous ne lisez pas la Bible, vous aurez à avoir du mal. Vous aurez beaucoup de mal. Éphésiens chapitre 5, quand il est dit du verset 18 au verset 21, voilà, là, vous voyez, c'est juste avant les conseils aux femmes, les conseils aux maris. Avant que Dieu parle aux femmes et avant que Dieu parle aux maris, il leur dit au verset 18, « Soyez remplis de l'Esprit ». Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Vous savez, c'est bien dans une maison quand on s'entretient des louanges du Seigneur. Je ne sais pas ce que vous écoutez à la maison, je ne sais pas ce que vous regardez à la maison, mais je pense que ça vaut la peine de s'entretenir ou de regarder des choses bonnes. Et les choses mauvaises, quand même, on devrait s'en abstenir. On l'a lu, « Éloigne-toi du mal si tu veux voir des jours heureux. Rendez continuellement grâce à Dieu le Père. » Verset 21, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Je crois que ce qui garde les couples, ce n'est pas qu'ils n'ont pas d'épreuve, c'est qu'ils ont la crainte de Dieu. Ils ont le respect de Dieu. Dieu a dit ça. Oh, Dieu dit que le mariage soit honoré de tous. Oh oui, je vais honorer le mariage. Je vais demander pardon à mes enfants tout à l'heure. Je vais demander pardon à mon conjoint, je n'ai pas été l'aide, ou je n'ai pas été le mari que j'aurais dû être. Je vais demander pardon, la crainte de Dieu, le respect de Dieu. Vous savez, qu'est-ce que ça veut dire, ce texte ? Mais que si on est rempli du Saint-Esprit, soyons, le Saint-Esprit, ce n'est pas que parler en langue, ce n'est pas que les dons spirituels. Rempli du Saint-Esprit, c'est aussi la capacité de savoir ce que je dois faire. Dans le cadre du couple, oui, dans l'église, je dois aspirer aux dons spirituels. Est-ce que vous priez pour recevoir les dons spirituels ? C'est toujours les mêmes qui prophétisent. Mais peut-être que vous pourriez peut-être vous tenir à genoux et dire, Seigneur, est-ce que tu veux que j'apporte une parole ? Oui ou non ? Je dis ça, d'une manière, je ne dis pas ça d'une manière moraliste, franchement, je ne supporte plus la moralisation. Je dis ça d'une manière intelligente, dans le sens que je sache dans quel domaine je manque d'huile, puisqu'on parle du Saint-Esprit. Dans quel domaine j'ai besoin d'huile ? Peut-être qu'au niveau des dons spirituels, ben j'ai reçu parce que j'ai demandé, je me tiens devant Dieu, Dieu me donne sa pensée, je la porte. Dans ce domaine-là, c'est pas acquis, mais je l'ai. Dans tel domaine, c'est pareil. Je suis capable de, tiens, j'ai à cœur, je m'occupe des enfants de l'école du dimanche, j'ai pris à cœur cette responsabilité, il y a besoin, il y a des gens, ils n'aspirent à rien, ça risque de leur porter préjudice. Mais dans le domaine, tiens, dans le domaine du couple, soumettez-vous les uns aux autres, c'est quelque chose qui devrait amener la bénédiction, et puis qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Le fruit de l'esprit, c'est quand même la maîtrise de soi, mais c'est le premier des fruits, c'est l'amour. Est-ce que je m'applique à savoir dans quel domaine je manque d'huile ? C'est où le domaine ? Peut-être que je suis un bon mari, mais que je ne suis pas un bon père. Peut-être que je suis un bon chrétien dans le domaine qui m'a été confié à l'Église, mais peut-être qu'à la maison, il y a un décalage, un gros décalage. Est-ce que je ne peux pas combler cette affaire ? Vous voyez ? Ne t'irrite pas. Ce serait mal faire. L'irritation, ça peut causer beaucoup de dégâts dans un foyer. C'est pour ça que j'ai lu les textes dans les Proverbes. Alors on termine vraiment avec ce texte dans 1 Pierre, qui est adressé dans le cadre des couples. On l'a lu tout à l'heure, mais je le relis, parce que quand même, il est extrêmement fort. Je le prends pour les mariages, peut-être que je le prendrai pour le mariage d'Amélie et de Gaël, si elle se rappelle qu'elle se marie au mois d'août. 1 Pierre chapitre 5, quand même, regardez ce verset, le verset 9. Regardez. Mes frères et sœurs, je ne sais pas si vous croyez que les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Quand même, dans le cadre du couple, dans le cadre de cette grâce, et même de la souffrance, puisque c'est une... Reméditez ce livre, vous allez voir, il y a beaucoup de souffrance. Dans ce cadre où Dieu parle aux femmes, où Dieu parle aux maris, il est dit qu'il en soit ainsi, afin que rien ne fasse obstacle à vos prières. Au verset 9, ne rendez pas le mal pour le mal, sachons-nous taire. Si votre mari ou votre femme vous a dit une parole blessante, taisez-vous, taisons-nous, mes frères et sœurs. Bénissez. Mes frères, je ne sais pas comment nous lisons la Bible, mais je ne sais pas, ce verset, il devrait nous faire bondir. Bénissez, ça veut dire faites du bien, priez, dites du bien, bénir c'est ça. Dites du bien, priez pour eux. Au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés. Voilà la volonté de Dieu. Je suis appelé, c'est ma vocation. Afin de quoi ? Afin d'hériter quoi ? La bénédiction. Alléluia. Mes frères et sœurs, que Dieu nous aide pendant ces vacances. Peut-être que vous allez partir en vacances. Peut-être que vous êtes en vacances. Que vous avez du temps. Dis, on va relire ces choses. Moi, je veux être un bon mari. Alléluia. Qu'est-ce que vous voulez être, mes frères, mes sœurs ? Qu'est-ce que vous voulez être ? Un bon chrétien à l'église ? Je veux être un bon chrétien à l'église. Vous connaissez, je l'avais lu sur un petit éphéméride. Vous savez, ce que je veux dire, c'est pathétique, mais je vous le dis, pour terminer. Ce n'est pas mon habitude de dire un truc pareil, mais je vous le dis. C'est un pasteur qui rentre à la maison avec sa femme. Et sa femme lui dit, arrête de sourire, on est arrivé à la maison. Une histoire vraie. Hein? Mes frères, Dieu nous a donné son saint livre en français. Si quelqu'un veut voir des jours heureux, ces commandements ne sont pas pénibles, mes frères et sœurs. C'est une grâce de lire la sainte parole. Alléluia. Est-ce qu'on demande au Seigneur de l'aide pour qu'il nous aide à être ses pères, ses frères, ses maris, ses pères, ses femmes, ses épouses, ses filles, ses jeunes filles. Moi, je crois que si les familles sont bénies, l'Église sera bénie. Il n'y aura pas besoin même de demander beaucoup la bénédiction, parce que si on bénit, on héritera la bénédiction. Mes frères, la petite Église, c'est la maison. L'Église est en grand, ce que la famille est en petit. Alors demandons de l'aide au Seigneur, mes frères et sœurs. que ces temps de vacances ou pas, de travail ou pas, c'est pareil en fin de compte, soient des temps de grâce dans la maison. Que quand les enfants rentrent de l'école, ils soient contents. Aller à l'école, ça a été pénible, ça a été difficile, mais à la maison, il y a la paix. Il y a la paix, maman, elle n'est pas devant la télé en train de regarder des bêtises. Elle a préparé des gaufres avec du sucre pour le pasteur qui va venir les visiter. Nous te bénissons, Seigneur. Nous le croyons que tu as donné ta vie au calvaire pour que nous soyons des sources de bénédiction. Des sources de bénédiction. Pardon, Seigneur, pour toutes les fois où nous n'avons pas été ce que nous aurions dû être. Mais à la lumière de ta parole, ça nous fortifie et ça nous encourage à être ces aides, ces responsables, ces hommes ou ces femmes que tu veux que nous soyons. Nous le croyons, Seigneur, que oui, un homme peut voir des jours heureux à condition qu'il s'éloigne du mal. Merci, Seigneur. Bénis nos familles, que nos maisons soient toutes protégées, non seulement des combats par tes anges et par ton sang, mais également de nos comportements misérables qui ouvrent la porte à l'ennemi. Seigneur, qu'il en soit ainsi, afin que nos prières soient exaucées. Que ton nom soit béni, Seigneur. Amen.